Le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. L'opérateur chinois Huawei fraye les frais de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Pékin met en garde Washington contre une atteinte aux relations commerciales. Nous irons en Chine dans un instant. 973 attaques contre le personnel soignant en zone de conflit en 2018. L'Afghanistan et les territoires palestiniens sont particulièrement risqués. L'ancien chef politique de l'ETA, Yoshu Ternera, arrêté en France, tour à tour inspirateur d'une stratégie d'attentat meurtrier, puis promoteur de négociations de paix avec l'État espagnol, il incarne l'histoire de l'organisation séparatiste. Et puis dans ce journal, nous parlerons aussi de taxi volant, un projet conjoint d'Airbus et de la RATP présenté au salon technologique VivaTech. L'offensive américaine contre le groupe chinois Huawei ne devrait pas rester sans conséquences. Pékin a adressé aujourd'hui une mise en garde à Washington, accusant les États-Unis de vouloir nuire aux relations commerciales. Un décret présidentiel signé hier par Donald Trump interdit aux réseaux de télécommunications américains de se fournir en équipement auprès de sociétés étrangères présentant un risque pour la sécurité nationale. Ce décret est perçu comme une attaque contre Huawei, le géant chinois des télécommunications accusé d'espionnage. Explication avec notre correspondant à Pékin, Jifan Liu.
Donald Trump a invoqué une urgence nationale et risque de s'attirer les foudres de Pékin. En interdisant au groupe américain de faire affaire avec Huawei pour des raisons de sécurité nationale, il s'attaque au fleuron technologique chinois. Pékin s'est empressé de dénoncer des sanctions unilatérales et voit dans ce décret un outil protectionniste. Les représailles ne devraient pas tarder à arriver puisque le gouvernement chinois a menacé de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits légitimes de ses entreprises. Pour Huawei, cette décision forcera les États-Unis à choisir des alternatives de moindre qualité et à un prix bien plus élevé. L'entreprise, régulièrement accusée par Washington d'espionnage au profit de Pékin, s'est déjà vue interdire l'accès au marché américain de la 5G. Le décret s'accompagne d'une autre sanction émanant de la part du département américain du Trésor. Huawei devra désormais demander une dérogation présidentielle pour acheter des composants électroniques américains. Donald Trump avait déjà utilisé une manœuvre identique l'an dernier avec un autre groupe chinois des télécommunications, ZTE. Il avait finalement levé les sanctions à la demande personnelle du président Xi Jinping. C'est la dernière attaque lancée par le président américain dans un contexte de raidissement des relations entre les deux premières puissances mondiales. Et alors que les négociations patinent et que l'escalade de sanctions se poursuit, les deux dirigeants pourraient se rencontrer le mois prochain au Japon à l'occasion du sommet du G20.
La crise diplomatique entre Pékin et Ottawa s'accentue. Les deux Canadiens détenus depuis décembre en Chine ont été formellement placés en état d'arrestation pour soupçon d'espionnage relatif à des secrets d'État. Le Canada condamne cette décision et exige de nouveau la libération immédiate de ses ressortissants. La déforestation n'a jamais cessé de progresser en Amazonie. 5 à 6 000 km² de forêt disparaissent chaque année. Mais depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro, le rythme s'emballe. On compte 50% d'augmentation sur le seul mois de janvier. Le chef indien Raoni effectue une tournée contre la déforestation au Brésil. De passage à Paris, il est reçu cet après-midi par Emmanuel Macron, Olivier Poujade.
Sa coiffe en plume de toucan jeune fait encore figure d'autorité, mais à 87 ans, Raoni a voulu s'entourer pour cette dernière tournée de jeunes chefs de communauté. Tapi est l'un d'entre eux. Il sera le successeur de Raoni pour poursuivre sa lutte et témoigner des ravages des exploitations agricoles qui cernent désormais sa communauté Yawalapiti dans le Xingu, au centre du Brésil.
Tout autour de notre parc, vous avez des champs de soja, du soja partout et du maïs. Et le venin qu'ils épandent sur le soja et le maïs se déverse dans l'eau. Tout ça tue les poissons, les animaux aquatiques. Ce que je vois aujourd'hui avec cette progression de la déforestation par l'agrobusiness, c'est que ma communauté est déjà touchée. Quand l'avion passe pour diffuser le venin, c'est sur nous qu'il retombe. Et les enfants qui commencent à avoir des démangeaisons, ils ont les yeux boursouflés.
L'institution sur laquelle pouvaient s'appuyer les communautés indigènes pour défendre leurs terres est en train d'être démantelée par Jair Bolsonaro. Raoni et ses chefs cherchent donc aujourd'hui de l'argent, autour d'1 million d'euros, pour pouvoir notamment baliser leur territoire, investir aussi dans des drones de surveillance pour que soit constaté toute toutes les exploitations illégales de la forêt amazonienne.
La ville de Mexico est enveloppée depuis 5 jours dans un nuage de pollution. Des indices élevés de contamination aux particules fines ont été relevés dans la capitale mexicaine du fait d'une série de feux de forêt en périphérie de la ville. L'absence de vent et des températures élevées ont aussi contribué à la formation d'un épais nuage gris qui masque partiellement les immeubles. Les autorités mexicaines ont donc décidé de fermer les écoles et de suspendre les gros chantiers de construction ou démolition. 30 institutions et ONG internationales, dont Médecins du Monde, publient un rapport sur les attaques contre le personnel soignant en zone de conflit. Outre la Syrie et le Yémen, 973 attaques ont été perpétrées l'an dernier dans 23 pays, contre 700 en 2017. Et 167 travailleurs médicaux ont été tués dans 17 pays. En tête des zones dangereuses, l'Afghanistan et les territoires palestiniens, comme l'explique Marcos Tamariz de Médecins du Monde, joint en Palestine par Nadine Epstein.
L'augmentation du nombre est tout premièrement un résultat, pas peut-être de l'intensification des guerres, mais parce que la communauté internationale a fait des efforts pour améliorer les mécanismes de rapportage des incidents. Toutefois, il reste encore une très grande marge d'amélioration dans les pays en conflit. Donc aujourd'hui, l'Afghanistan, au chiffre de près de 100 attaques, les plus attaqués aujourd'hui sont les territoires palestiniens occupés. Dans certains pays, on retrouve des problèmes où le personnel qui est responsable des vaccinations, comme l'Ebola en République démocratique du Congo, sont cibles directement de ce genre d'attaque. Disons, la raison pour laquelle le personnel de santé est attaqué autour du monde, il y a vraiment une multiplicité de facteurs derrière. Donc, ce n'est pas toujours facile aussi non plus pour ceux qui sont en train de rapporter de comprendre parfaitement quelle est la raison de ces incidents. Mais le problème qui reste est que les moyens de protection ne sont clairement pas suffisants et deux, l'impunité demeure. Les personnes qui voulaient fournir ces services n'ont pas pu être protégées.
Au Yémen, la coalition menée par l'Arabie Saoudite a mené aujourd'hui une série de raids aériens sur Sana'a, contrôlée par les rebelles Houthis. Avant-hier, les rebelles pro-iraniens avaient tiré 7 drones vers la région de Riyad, endommageant 2 stations de pompage d'un oléoduc. Il a passé 16 ans en cavale. José Antonio Urrutiko Etxea, 68 ans, a été arrêté ce matin en Haute-Savoie. Plus connu sous le nom de Josu Ternera, c'est l'ancien chef politique d'ETA. En mai 2018, c'est lui qui avait enregistré la déclaration finale par laquelle l'organisation séparatiste basque annonçait sa dissolution. Son arrestation, en exécution d'un mandat d'arrêt délivré après sa condamnation en France pour association de malfaiteurs terroristes, pose une question plus large au regard du processus de paix. D'autant que le nom de Josu Ternera traverse toute l'histoire d'ETA, comme le rappelle le professeur de droit Jean-Pierre Massias, spécialiste de la résolution des conflits.
Il est l'incarnation, je dirais, de l'histoire d'État et de toutes les contradictions ou différences qu'il peut y avoir dans cette histoire. C'est à la fois un combattant antifasciste, il rentre dans l'ETA, il participe à la lutte contre le franquisme, puis il va continuer son action dans l'ETA et développer cette action contre l'Espagne démocratique. Et il sera donc associé à ces deux grandes périodes de l'histoire d'ETA. Il sera à la fois un chef politique extrêmement fort, extrêmement écouté, qui organisera en partie la lutte armée, mais il sera également un combattant de la paix, c'est-à-dire quelqu'un qui participera pratiquement à toutes les tentatives de règlement du conflit depuis 1989 et depuis Alger, jusque à la disparition d'ETA, puisque c'est lui qui lira le communiqué de disparition d'État en 2018. Cette contradiction dans son personnage et le fait qu'il soit depuis de nombreuses années associé au processus de paix et consubstantiel du processus de paix rend cette arrestation au fond complexe. Il risque d'être un prisonnier plus encombrant que valorisant pour ceux qui ont pris la décision de l'arrêter, dans la mesure où d'abord il est âgé, il est malade, et puis il est un des acteurs de la paix. Et aujourd'hui, si on se place dans une posture de justice transitionnelle, de sortie du conflit et de reconstruction d'un pays basque apaisé qui tire les leçons de son passé, son arrestation, elle pose question, elle pose problème. Elle est, je dirais, à la fois logique, juridiquement et d'un point de vue pénal, mais elle est politiquement extrêmement contradictoire. Et je pense que cette situation-là ne sera pas simple à gérer pour les gouvernements.
Jean-Pierre Massias, professeur de droit, répondait à Florence Sturm. Emmanuel Macron a visité le salon Vivatech à Paris, salon international des start-up. Devant un parterre d'acteurs secteur de la high-tech. Le chef de l'État a fait un plaidoyer pro-Europe. Elle peut devenir leader de la tech de demain, estime le président, en créant une tech démocratiquement soutenable face à une Chine stato-centrée et des États-Unis pilotés par de grands groupes privés. Nous sommes en train de bâtir en Europe un modèle compétitif, démocratique et mû par le bien commun, estime Emmanuel Macron, où les gouvernements sont business-friendly, mais créent une régulation pour accompagner le changement climatique ou la protection de la vie privée. Alors vous, Hakim Kasmi, vous vous êtes intéressé aux nouveautés présentées à ce salon Vivatech et en particulier aux voitures volantes, un projet dans l'air du temps puisqu'une start-up allemande vient de présenter un prototype de taxi volant à Francfort, mais à Paris, donc, Airbus et la RATP ont un projet commun.
Oui, et concrètement, ce taxi volant qui pourra transporter de 4 à 5 personnes sera un mix entre un petit avion et un hélicoptère qui sera totalement électrique avec donc 0% d'émissions de CO2. Pour la RATP, l'opérateur, il s'agit de développer un nouveau moyen de transport alternatif et complémentaire, avec dans un premier temps des trajets bien précis comme entre Paris et les aéroports d'Orly et de Roissy, ou bien entre la capitale et les sites touristiques comme le château de Versailles. Les usagers pourront prendre ce nouveau taxi volant du futur à partir d'une gare de RER ou d'un dépôt de bus, ce qui permettra de faciliter d'une part les correspondances, mais aussi de réduire les nuisances sonores. Quant au prix du billet, il sera très accessible, promet Mathieu Dunant, c'est le directeur innovation de l'RATP.
Aujourd'hui, les premières estimations laissent imaginer qu'on sera sur des coûts qui seront de l'ordre de 1 à 2 euros du kilomètre, donc qui ne sont pas négligeables, mais qui sont néanmoins très abordables. Aujourd'hui, très comparables, par exemple, au prix d'un VTC ou d'un taxi. Et on va continuer à travailler de façon à optimiser ces coûts au maximum, de façon à ce que, comme on l'imagine, ce soit demain un service qui puisse être accessible, comme le bus, comme le RER, comme le métro, avec son pass Navigo.
La RATP et Airbus tablent sur une commercialisation d'ici 5 ans de ce nouveau véhicule, une période nécessaire pour mettre en place une nouvelle législation et une nouvelle réglementation.
Hakim Kasmi, 8,7%, c'est le taux de chômage le plus bas depuis 10 ans. Nos efforts ont des effets, se réjouit la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Mais si la décrue se poursuit, c'est à un rythme très lent et l'on n'est pas encore revenu au niveau d'avant la crise de 2008. Le glyphosate, moins cancérogène que la charcuterie. Les déclarations du sénateur UDI, Pierre Medevielle, ont fait grand bruit ces derniers jours. Le rapport parlementaire qu'il commentait a été officiellement présenté aujourd'hui. Ce rapport ne se prononce pas sur la dangerosité du glyphosate. Il constate que l'OMS et l'agence européenne EFSA sont parvenus à des conclusions divergentes. Et au-delà du seul glyphosate, il réfléchit aux moyens d'améliorer l'indépendance et l'objectivité des agences chargées d'évaluer la dangerosité des substances mises sur le marché. Pour rétablir la confiance entre les citoyens et les agences sanitaires, nationales ou européennes, il faut absolument garantir leur indépendance financière, explique le sénateur communiste des Hauts-de-Seine, Pierre Ouzoulias.
Les agences qu'on a visitées nous disent toutes la même chose. Il faut aujourd'hui développer, je dis bien développer, parce que malheureusement, on est dans une situation difficile, ces disciplines scientifiques. Il faut développer une expertise nationale, indépendante, avec des chercheurs payés pour ça, et dont on est sûr qu'ils n'auront pas de conflit d'intérêts, parce que leurs données seront complémentaires de celles des agences. Et aujourd'hui, on ne peut pas tout demander aux agences d'évaluation. Donc, pour rendre de la confiance, il faut aussi faire confiance à la recherche publique. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Aujourd'hui, moi, je suis chercheur au CNRS, et de plus en plus, notre ministère de tutelle et le CNRS nous demandent d'aller chercher nos financements, que nous avons de moins en moins, à l'extérieur. Et donc, de nous exposer à des conflits d'intérêts, et donc de ne plus pouvoir intervenir dans un débat sain, pour lequel on pourrait mettre en avant, justement, notre qualité de fonctionnaire. Donc c'est un point essentiel. Les agences qu'on a visitées nous disent clairement qu'aujourd'hui, pour rétablir la confiance, c'est aussi aux politiques de prendre leurs responsabilités. Et c'est aux politiques de définir quel niveau de protection ils souhaitent pour les citoyens et les citoyennes de l'Europe. Donc il ne faut pas se retrancher uniquement derrière l'avis des agences. Il faut leur donner un objectif fort, politique. Et ensuite, elles feront une évaluation en fonction de cet objectif. Donc il y a une décision politique à faire avant un problème de recherche scientifique.
Le sénateur Pierre Ouzoulias au micro de Véronique Roberotte pour l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques qui a élaboré ce rapport. Il faut donner la possibilité aux agences de commander des études à travers un fonds de recherche interagence. J-10 avant les élections européennes, avec une spécificité cette année, un nombre record de 34 listes pour le scrutin du 26 mai. Nous avons commencé hier à vous parler des petites listes placées sous la barre de 0,5% dans les sondages. On continue de s'y intéresser aujourd'hui. Anne Fauquemberg, vous avez interviewé des têtes de liste, des intellectuels et des militants qui veulent faire reconnaître leur compréhension des enjeux de notre société.
Parmi eux, Adama Traoré, militant associatif engagé depuis plus de 2 ans en politique. Plusieurs de ses colistiers sont originaires d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, une commune où il a grandi. Avec sa liste « Démocratie représentative », Adama Traoré souhaite une Europe plus inclusive pour les étrangers.
C'est pas normal que le pacte de Marrakech il ait été mis aux oubliettes par rapport au fait que tous les partis politiques, et En Marche les premiers, ont peur de le défendre car ils ont peur de perdre leur électorat. C'est incroyable. Alors que le pacte de Marrakech, c'est pas un pacte, c'est une déclaration. Il n'est pas contraignant juridiquement. Que lorsque moi j'entends certains discours de Marine Le Pen, de M. Wauquiez, de Dupont-Aignan, moi ça me fait peur.
Inclusion, c'est aussi le maître mot de Nathalie Tomasini, qui est à la tête de la liste À Voix Égales, liste féministe, mais pas contre les hommes, précise l'ancienne avocate de Jacqueline Sauvage, dont l'une des filles est d'ailleurs sur sa liste. Nathalie Tomasini souhaite harmoniser la législation européenne pour lutter contre les violences faites aux femmes et surtout agir au niveau des structures de la société.
Pour moi, la violence dans la sphère privée comme dans la sphère professionnelle, ce n'est qu'un symptôme d'une société, en fait, qui est malade car en déséquilibre. Et donc, pour moi, le simple fait de rééquilibrer mécaniquement en donnant les mêmes droits aux femmes qu'aux hommes, ça va permettre d'éliminer cette violence qui vient du rapport de domination et du fait que les hommes sont dans toutes les instances décisionnaires.
Amorcer dès maintenant un vrai changement structurel dans tout ce qui conduit au déclin de la planète. Le philosophe Dominique Bourg s'y attelle avec sa liste Urgence climatique en partenariat avec Delphine Bateau et son mouvement Génération Écologie. Des mesures concrètes tout de suite. Interdire par exemple les trajets en avion de moins de 5 heures lorsqu'il y a une alternative ferroviaire, explique l'ancien président du Conseil scientifique de la Fondation Hulot.
Si vous voulez un avion sur un trajet court, c'est une absurdité, puisque l'essentiel du kérosène que vous allez consommer, c'est pour le décollage et pour atteindre et l'altitude et la vitesse de croisière. Ensuite, la consommation fond. Alors quand vous faites un court trajet, vous consommez un maximum pour rien. C'est d'autant plus absurde que vous avez un équivalent en train. Et franchement, si vous comptez tout en termes de temps passé à l'aéroport, vous n'allez pas vraiment y gagner. Donc ça, c'est une absurdité.
Ne pas faire les choses à moitié, c'est aussi l'ambition d'Yves Gernigon et de sa liste Parti fédéraliste européen. Deuxième fois qu'il se présente aux élections européennes, il n'est pas convaincu par les dernières réformes, même celles qui se rapprochent de son état d'esprit, comme la nouvelle agence de garde-frontières et de garde-côtes.
Quand on voit le projet de réforme de Frontex, hein, alors on va passer de 5 000 gardes-frontières à 10 000, pourquoi pas, enfin c'est clairement insuffisant. Je veux dire, un pays, par exemple, un pays de la grandeur des USA, le corps de garde-côtes US, c'est plus de 100 000 fonctionnaires. Donc on est à des lumières de ce qu'il faudrait pour l'Europe.
Un militant pour un fédéralisme total qui, en contrepartie, donnerait plus d'autonomie aux territoires avec une meilleure reconnaissance des cultures et des langues régionales.
Anne Fauquemberg. Les élections législatives se poursuivent jusqu'à dimanche en Inde. Le scrutin s'est ouvert le 11 avril pour renouveler la chambre basse du Parlement. Les régions votent les unes après les autres. Et en ce moment, toute l'attention est concentrée sur la région du Bengale, à l'est du pays. Des affrontements violents ont en effet opposé les partisans du Parti nationaliste hindou de Narendra Modi à ceux de la chef du gouvernement régional, l'une des principales opposantes au Premier ministre. Les tensions sont telles que la commission des élections a décidé d'interrompre la campagne électorale au Bengale. Elle s'est terminée ce soir au lieu de demain soir, Sébastien Farcy.
Nous sommes à Calcutta mardi soir. Le convoi du président du parti nationaliste hindou du BJP passe avec des centaines de militants. Sur cette vidéo diffusée sur Twitter, on voit les partisans s'arrêter, attaquer un bâtiment avec des bâtons et forcer l'entrée. C'est l'université Vidyasagar et en quelques minutes, ces hommes saccagent les lieux et détruisent la statue de Ishwar Vidyasagar, une icône célèbre du Bengale. C'est un vrai scandale. Nouveau cas de violence électorale dans cette région disputée. Le BJP, malgré ses preuves, accuse le parti régional d'avoir orchestré ce saccage. Son objectif, présenter la ministre en chef du gouvernement du Bengale comme un tyran. Cette femme, Mamata Banerjee, défend en effet ardemment les bases laïques de l'Inde à l'opposé du BJP hindouiste et représente donc l'une des principales opposantes à Narendra Modi. Mais autour d'elle vient maintenant de se former une alliance exceptionnelle. Du nord au sud de l'Inde, de nombreux partis tels que le Congrès soutiennent Mamata Banerjee contre le BJP et condamnent la décision de la commission des élections de raccourcir la campagne dans la région pour des raisons de sécurité, car cela ferait le jeu du BJP.
Sébastien Farcy, correspondant de RFI en Inde pour France Culture. Demain vendredi, le temps va virer au gris sur la moitié nord et il pleuvra de plus en plus dans le sud et le mauvais temps atteindra la Corse en soirée. Les températures, 5 à 13 degrés le matin, l'après-midi 14 à 22 au nord de la Loire, 13 à 18 sur la moitié sud, 19 à 22 en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.